Hello! Aujourd'hui, on va parler de l'éducation de nos enfants ou futurs enfants. C'est pas un thème dont on parle souvent, mais en tant que leader, j'ai probablement appelé à jongler avec plusieurs casquettes. L'éducation de nos enfants ou futurs enfants est très importante, surtout dans un contexte où on va dire que dans beaucoup de pays, l'État ou les institutions prennent à bras le corps le rôle des parents et peut-être pas à l'avantage des enfants. En fait, tout est fait pour détruire la cellule familiale comme la Bible voudrait qu'elle soit et qui a fait ses preuves, hein, une famille où il y a un père, une mère équilibré, où l'amour règne, où les enfants s'épanouissent. Ça a prouvé que ça faisait de bons citoyens et des personnes tout à fait responsables. Malheureusement, cette vision de la famille est en train de se réduire comme une peau de chagrin et l'État a décidé de. Ou en tout cas, les institutions étatiques ont décidé de s'en mêler. Donc, du coup, j'ai vu dernièrement à la télé que des projets hein, lancés par le Premier ministre, c'était que l'école, en tout cas pour les collégiens dans les quartiers difficiles, allait être de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi, pour éviter que les enfants traînent dans les rues. Et j'ai envie de dire. Où sont les parents? Eh bien, ils sont en train de travailler plus pour gagner plus. Ils n'ont plus de temps pour les enfants. Et malheureusement, ça conduit à certaines dérives, à certains comportements. Et en tant que leader, d'autant plus chrétienne, eh bien, pour nous, en fait, c'est important que nous réussissions à l'extérieur de la maison, c'est-à-dire dans nos entreprises, dans nos projets, dans tout ce que le Seigneur nous met à cœur. Mais c'est encore plus important de réussir à la maison. Parce que si on réussit à l'extérieur, mais que notre foyer est brisé, que notre mariage est en lambeaux et que nos enfants sont dans la rue, je ne crois pas que c'est l'ambition que nous poursuivons. L'ambition que nous poursuivons, c'est de réussir dans nos couples, hein, d'avoir des couples qui durent jusqu'à ce que la mort nous sépare. D'avoir des enfants qui font notre joie et notre bonheur et pas je sais pas, notre tristesse et notre désarroi. Et par-dessus tout, la cerise sur le gâteau, c'est de réussir dans les projets que le Seigneur nous a mis à cœur, dans les entreprises qu'il nous a mis à cœur ou dans les positions d'influence auxquelles il nous a fait accéder. Donc, ça va être le thème du jour parce que je pense que c'est vraiment d'actualité. Et si tu ne me connais pas, hein, je vais quand même me présenter un petit peu. Je suis Maisie Marinette, la fondatrice de Leaders Chrétiennes, une plateforme créée pour t'inspirer, t'édifier et t'équiper afin que tu deviennes une leader impactante, influente pour Dieu, une femme qui va laisser une trace indélébile dans sa famille, ses entreprises ou dans l'entreprise où elle travaille. Petit rappel, la conférence Le Réveil des Guerrières a lieu le samedi 24 août en Île-de-France. Je crois que j'ai reçu un message qui me disait oui, ça m'intéresse, mais je ne connais pas Femme Esprit, je ne connais pas vraiment. Donc du coup, Femme Esprit, c'est une association loi 1901 déclarée. Tu peux te rendre sur femmeesprit.org pour découvrir tout le panel des activités qu'on fait. Leaders chrétienne est issue de Femme Esprit dans le sens où Femme Esprit existait bien avant et c'est parce qu'au sein de Femme Esprit, il y avait des femmes qui avaient besoin qu'on parle de leadership mais avec leurs valeurs que Leaders chrétienne est née. Donc on n'est pas nouveau, on est là depuis un peu moins ou exactement, je sais plus, je suis pas très bonne avec les dates. En tout cas, ça doit faire une dizaine d'années qu'on est là ou un peu moins. Et si tu vas sur le site de Femme Esprit, je pense dans les événements ou dans témoignages, tu verras ce que les filles qui ont participé à la conférence disent. Pour certaines, c'était leur première fois et on a pu recueillir leur pardon, on a pu recueillir leurs premières impressions et elles sont unanimes. Le Seigneur est là, le Seigneur les a touchés, pardon. Donc du coup, si tu entends mon petit message, mon invitation à cette conférence et que tu te dis que ouais, mais je connais pas, je t'invite à tout simplement prier, hein. Si le Seigneur te conduit à le faire, fais-le parce que lui seul sait là où tu dois être le 24 août et là où il a prévu que tu sois béni. Et si tu continues à avoir à cœur d'être à la conférence, eh bien, rejoins-nous. Sache néanmoins qu'à partir du 30 juin, les places vont augmenter au prix de 75 euros. Alors que si tu les prends avant le 30 juin à 23h55, ben les places seront à 55 euros. Donc, ne tarde pas. Et vraiment, suis la direction du Saint-Esprit. Cette conférence est vraiment pour les femmes, en fait, qui ont vécu ces derniers mois et ces dernières années un peu compliquées dans leur foi, qui ont subi des attaques spirituelles, qui ont vécu des situations difficiles et qui sont fatiguées, qui sont éprouvées, qui ont besoin d'un renouveau. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire au travers de la conférence, d'où le nom. Le réveil des guerrières. Revenons à notre thème du jour. Alors, pourquoi en fait je parle de ce thème-là? C'est parce que je ne sais pas si je te l'ai dit, mais je suis en train de faire l'étude biblique, ben, du coup, au sein de Femmes Esprit. On a étudié 1 Samuel, le livre de 1 Samuel, et je suis en train de terminer le livre de 2 Samuel. Il me reste très peu de jours, quoi. Enfin, en gros, j'ai terminé. Et donc, du coup, je me suis rendu compte d'une chose. Les grandes figures de 1 et 2 Samuel, en fait, ont complètement foiré l'éducation de leurs enfants. Alors, on a d'abord Élie, le sacrificateur, qui avait deux fils, Ophni et Phinéas. Et Ophni et Phinéas, en fait, ils ne respectaient pas, même s'ils les savaient, le protocole. En ce qui concerne les sacrifices, ils méprisaient ce que le Seigneur ou les ordonnances du Seigneur, et ils allaient même jusqu'à coucher avec certaines femmes dans l'enceinte du temple ou à proximité. Et donc, du coup, la réponse du Seigneur a été en fait de ils sont morts, hein, ils sont morts tout simplement tous les deux en même temps. Et ça a été prophétisé à Élie préalablement. Mais ce qui est marquant, c'est que Élie est d'un laxisme, c'est un truc de malade, quoi. Quand il apprend ce que ses fils font, il dit juste, ce que vous faites n'est pas bien. Mais il n'y a pas de punition, il n'y a pas de mise à pied, il n'y a pas de responsabilisation vis-à-vis des actes qu'ils ont commis. Non, ils reprennent leur vie comme si de rien n'était. Et à cause de ça, en fait, le Seigneur ben, va devoir, a dû plutôt intervenir. Et son jugement a été que la prêtrise allait sortir de la maison d'Élie. Et ça ne s'est pas fait tout de suite, hein, ça s'est fait plusieurs années après. Mais que Ophni, Phinéas et Élie allaient mourir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ensuite, on pense à Saül. Oui, Saül qui a eu plusieurs enfants. Et qui s'est révélé être un ennemi de la volonté de Dieu en combattant David qui était son successeur. Donc il est mort avec son premier fils Jonathan. Mais celui qui a suivi, je me rappelle pas très bien son nom, il faudrait que je le retrouve. Ishbosheth, il s'appelle Ishbosheth. Il est pas du tout les d'or. Alors là, c'était. Oh là là, catastrophe naturelle. Donc, échouer aussi l'éducation, en tout cas par rapport à la mission qui l'attendait possiblement. Ensuite, on a les enfants de David. Alors, dans 2 Samuel, on parle surtout d'Amnon et Absalom. Et alors, le contexte, c'est que quand même, David est sous un jugement, puisqu'il a couché avec la femme d'autrui, à savoir Uri. Et ensuite, il a fait assassiner Uri pour cacher la grossesse qu'avait Bathsheba. Donc, le Seigneur voit tout ça, il n'est pas content. Et au bout d'un an, en fait, il envoie Nathan parler à David et il s'ensuit un jugement par lequel l'épée rentrera dans la famille de David, quoi. Donc, du coup, Dieu enlève quelque part sa protection sur la maison de David. Mais on voit quand même que si ce n'était pas la protection de Dieu, on ne sait pas où serait cette famille, hein. On a Amnon, un énergumène exécrable, comme son frère qui suit d'ailleurs, Absalom. Et Amnon, en fait, obnubilé par sa sœur Tamar, qui est sa demi-sœur d'ailleurs, super jolie, il veut la violer tout simplement. Il ne veut pas l'épouser, sachant que normalement, en fait, ça ne se faisait pas d'épouser sa demi-sœur, mais elle dit que le roi peut faire un décret et tout, mais qu'il ne la viole pas, ça ne se fait pas. Et donc, du coup, il choisit quand même de la violer. Alors, pour Tamar, il faut savoir que ça veut dire plus de mariage, plus de possibilité d'avoir un enfant. En gros, tu la mets dans un coin et puis sa vie est finie, quoi. Surtout à l'époque où les femmes, leur vie était centrée autour de la famille. Donc, c'était mon foyer, mes enfants. Alors, c'est une princesse, donc elle allait avoir un style de vie assez confortable et tout ça a été balayé d'un revers de la main parce que Amnon l'a violée. Comment David a réagi? Eh bien, David fut irrité et puis ça s'est arrêté là. Il n'a pas du tout puni Amnon. Et puis du coup, Absalom, qui est le frère biologique, même père, même mère que Tamar, a vu ce que Amnon a fait. Il a également vu que son père n'a rien fait, que son père n'a exercé aucun jugement et il a fomenté une vengeance pendant 2 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a assassiné Amnon. Absalom le sépare. Il dit là, je ne vais pas faire tout le livre de 2 Samuel avec toi, mais en résumé, il s'est quand même rebellé contre son père. Il a couché avec les concubines de son père et il était prêt à tuer son père pour prendre sa place de roi. Et quand Absalom se fait tuer, qu'est-ce que David fait? Ben David pleure. David pleure. Il dit, j'aurais préféré mourir à la place de mon fils. J'étais là, mais c'est quoi ce délire en fait? Moi, je lis avec les filles, on va décortiquer celles qui sont dans le même worship, mais c'est très intéressant, franchement, d'étudier la Bible en profondeur. Franchement, si tu ne le fais pas encore, tu devrais. Et si ça ne se fait pas dans ton église, en tout cas, d'étudier des livres, hein, pas juste de te prendre des versets à droite, à gauche, mais de rester dans un livre biblique. Ben, je t'encourage à nous rejoindre, hein, ben pour 2025, parce que là, les inscriptions sont terminées. Et celui qui finalement va lui succéder, c'est Salomon. Mais dans la version seconde, ben, on se rend compte dans 2 Samuel 12, 25, que Salomon n'a pas été élevé par David comme Amnon et Absalom. Il a été confié au prophète Nathan, qui veut dire que les valeurs qui ont été inculquées à Salomon, les préceptes concernant la relation avec Dieu, etc., etc., ce n'est pas David qui a fait ce travail, mais c'est Nathan. Et cela explique donc pourquoi quand il est devenu roi, quand il a eu un rêve où Dieu lui demandait qu'est-ce qu'il voulait, il a demandé la sagesse et rien d'autre. Parce qu'il avait été élevé par un homme qui n'était pas son père, mais qui lui avait enseigné l'importance de la sagesse pour gérer le peuple, probablement avec pas mal d'anecdotes, et qui lui avait appris quelque part la crainte de Dieu, contrairement à Amnon et Absalom, qui ne craignaient ni Dieu, ni leur père. Donc, on se rend compte qu'il y a des personnes, en fait, que Dieu établit en position d'autorité pour des personnes qui ont un appel sur leur vie, des personnes qui manifestent leur appel. En tout cas, pour David, ce fut le cas. Mais malheureusement, quand on regarde leur maison, c'est la catastrophe naturelle. Et en tant que leader chrétienne, on ne veut pas ça. On veut que nos enfants grandissent dans les voies du Seigneur et qui fassent notre joie et notre fierté et absolument pas notre honte. Donc du coup, j'ai fait une petite liste des conversations qu'on a pu avoir. Il y a une année, on a eu un atelier sur ce sujet avec quelqu'un dont l'époux se déploie vraiment au niveau et de son ministère et de son appel en tant que quelqu'un qui est à la tête d'une des plus grandes entreprises, si ce n'est la plus grande entreprise de son pays, avec des enfants qui aiment le Seigneur, qui servent le Seigneur, et aussi des enfants, en fait, qu'on leur demande qu'est-ce que tu pourrais reprocher à tes parents, eh bien, qu'ils disent, malgré le fait que j'ai vu que les parents étaient quand même assez sévères, en tout cas pour 2024, hein, parce qu'on est beaucoup dans le laxisme actuellement. Ils ont dit en fait que c'est vrai que leurs parents ne sont pas parfaits, mais ils aimeraient avoir aucun autre parent que le père qu'ils ont et que la mère qu'ils ont. Ce qui montre vraiment que les enfants sont bien dans leur famille et qu'ils comprennent comment on les éduque. Donc, la première chose en fait, c'est l'établissement du culte familial. Alors, il y a des familles qui sont vraiment assidues, mais en tout cas, elles font le culte familial. C'est quoi le culte familial? Ben, c'est un temps. Alors, c'est pas comme à l'église, on va passer 2 heures là-bas, ça peut être une demi-heure. Ça doit être fait en fonction de l'âge des enfants et de leurs compétences. Mais c'est un moment, en fait, où quotidiennement ou de façon hebdomadaire, on va passer un temps, où on va chanter un petit chant et où papa et maman, selon l'âge des enfants, va ouvrir la Bible, vont ouvrir la Bible, ils vont enseigner leurs enfants sur ce que dit la parole avec des interactions. À l'église, il n'y a pas d'interaction, mais là, il va y avoir des interactions pour voir ce que les enfants retiennent et éventuellement corriger. Après, quand les enfants commencent à lire, ben, c'est le moment de dire que tel jour, en fait, ou telle semaine, ça va être Paul, ça va être Bernadette, ça va être Anastasia qui va préparer l'exhortation pour le culte familial. Et à partir de 7, 8, 9 ans, ben, ils vont, avec leur compréhension, ramener ce qu'ils ont compris. Et en tant que parents, on va corriger pour nous assurer que nos enfants est de la nourriture spirituelle, parce que c'est notre rôle en tant que parents d'assurer, de nous assurer qu'ils connaissent ce que dit la Bible. C'est pas à la monitrice du dimanche à l'église de faire ça, c'est aux parents. Ensuite, c'est important d'avoir un cadre et une culture familiale. Un cadre familial, c'est qu'il y a des choses qu'on ne fait pas chez nous. On ne vole pas, on ne ment pas, limite on te punit plus. On a vu que tu as menti, que quand tu dis la vérité, en fait, une façon de montrer à l'enfant que ben, s'il dit la vérité, il va souffrir moins. Donc, il vaut mieux intégrer la vérité tout de suite dans sa tête. Et qu'il y a une culture familiale, en fait. Il y a des choses qui se font dans cette famille-là. Il y a une façon de fonctionner. Il y a une façon d'interagir les uns avec les autres. Il y a une façon de respecter ses parents. Il y a une façon de s'adresser à ses parents, etc., etc. Donc, on n'est pas dans quelque chose où on va frapper l'enfant avec la verge pour tout et n'importe quoi, absolument pas. Mais on est dans un cadre, en fait, où l'enfant est prévenu de toutes les règles de la famille et qu'il sait aussi quelles sont les punitions qui sont attachées au fait de transgresser ces règles-là. Et quand il les transgresse, ben, si on lui dit « qu'est-ce que j'avais dit? » c'était quoi la punition? Oui, tu as fait quoi? Oui, tu mérites quoi? Mais ben, l'enfant lui-même va savoir que ben, c'est de sa faute s'il se retrouve dans cette situation-là et ça le responsabilise en fait. Et je me rappelle d'un couple qui avait témoigné par rapport à ce principe-là et qui disait que quand ils partaient en vacances, en fait, la maman, en fait, elle ne les tapait pas avec une ceinture. Hein. Elle avait une petite spatule en bois et puis en fait chacun devait, si tu fais une bêtise, tu mets ta main et puis elle tape sur la spatule et ça fait mal, mais c'est pas une claque, c'est pas quelque chose de vraiment violent. Et c'est important aussi que quand on corrige un enfant, en fait, on ne le fasse pas quand on est en colère. Il faut être apaisé, il faut être tranquille, de façon en fait à ne pas se lâcher sur l'enfant en fait, mais vraiment être dans quelque chose qui le responsabilise et pas qui soit un abus physique, c'est très important. Et donc du coup, ils partent en vacances et puis les enfants disent, mais maman, tu as pas pris la spatule pour nous. Donc en fait, ils savent eux-mêmes que la folie est attachée au cœur de l'enfant et ils ont eux-mêmes demandé la spatule au cas où eux, ou surtout l'un de leurs frères ou sœurs, fasse quelque chose et pour qu'il soit puni. Mais donc, ça montre en fait que la punition n'était pas du tout mal vécue, elle était responsabilisée. Il savait pourquoi il s'était puni et il savait ce qu'il ne devait pas faire pour être puni, pardon. Ensuite, c'est important la prière et l'intercession, mais des parents et de toi, de l'Église chrétienne et de ton époux en faveur des enfants. Et on ne parle pas d'une intercession de 2 minutes ou de 5 minutes. On parle vraiment de passer du temps de la prière et d'être à l'écoute de l'Esprit pour savoir comment prier pour ses enfants. Si tu habites en France, tu sais que si ton enfant est entre guillemets normal, qu'il n'est pas handicapé, tu as l'obligation de le scolariser à partir de la maternelle. Avant, je crois que c'était obligatoire à partir du CP. Maintenant, ils ont arrêté ça. Et donc, du coup, les enfants sont de plus en plus exposés à ce que les autres vivent chez eux qui n'est pas du tout recommandable. C'est ainsi qu'il y a quelques mois, en fait, on a vu aux infos qu'une jeune fille de 5 ans et de 7 ans ont violé dans la cour de récréation une petite qui avait 4 ou 5 ans. Elles ont appris ça où? Elles ont vu ça soit à la télé chez eux avec des films porno, soit leurs parents leur font ça et ils ont trouvé, on leur a dit que c'était normal et elles l'ont fait à une petite en fait. Donc imaginez le traumatisme, imaginez ce que la petite a vécu et imaginez les parents qui ont envoyé leur enfant à l'école et qui se retrouvent avec une situation comme ça à gérer. C'est extrêmement traumatisant. Donc du coup, l'intercession permet à Dieu d'intervenir dans la vie de nos enfants en notre absence et de faire en sorte en fait qu'ils échappent à pas mal de stratégies, à pas mal de guet-apens que l'ennemi aurait fomenté pour leur vie en fait, pour qu'ils soient traumatisés et pour qu'en fait ils se rebellent contre leurs parents et contre Dieu et qu'ils se retrouvent à avorter de la destinée qu'il a. Là, c'est une arme puissante, l'intercession, il faut absolument l'utiliser. Ensuite, c'est important d'impliquer le Saint-Esprit dans la façon de d'éduquer et de gérer les enfants. Les enfants sont un don de Dieu. C'est vraiment, la Bible le dit, si les enfants sont un don de Dieu. Et donc, du coup, on a besoin de lui, en fait, pour qu'on puisse s'adresser à chacun selon leur spécificité. Moi, ça m'avait toujours marqué. Il y avait un couple, ils allaient à l'église tous les dimanches. Et en fait, le garçon, en fait, tu arrivais à l'église, tu lui disais, tu fais pas de bruit, sinon tu es puni. Il comprenait tout de suite. Ils ont une fille après, il disait, il faisait la même chose, ça marchait pas. Elle pleurait, elle faisait un scandale tous les dimanches. Et en fait, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est que on l'a préparé la veille. On a commencé à lui dire, Pénélope, demain, on va à l'église. On a l'église, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Il faut rester comment? Calme. Donc demain, on va s'habiller, on va aller à l'église, mais quand tu arrives là-bas, tu ne fais pas de bruit, tu ne pleures pas. Et que s'est-il passé? Ben, Pénélope fut très calme, et ce, tous les dimanches d'après qu'on l'a préparé en amont. Donc on peut avoir deux enfants. Mais ils sont complètement différents et ce qui marche pour l'un ne marche pas pour l'autre. Et c'est là où on a besoin ben, d'observer les enfants que le Seigneur nous a donnés, mais également de la direction du Saint-Esprit pour savoir en fait comment éduquer les enfants en fonction du caractère, des aptitudes et de l'appel de Dieu qui assure leur vie, parce que tes enfants ont un appel aussi, bien que toi. Ou tes futurs enfants auront un appel aussi bien que toi. Et en tant que parent, ton rôle, c'est de les conduire vers cette destinée que Dieu a préparée pour eux, afin qu'ils s'y épanouissent dès le plus jeune âge et qu'ainsi que quand ils ont 30 ans, 40 ans, ils ont déjà fait des exploits parce qu'en fait, ils ont compris très tôt parce que tu leur as expliqué et qu'ils se sont épanouis dedans très tôt. Parce que tu as su en fait les guider avec le Saint-Esprit vers la destinée qui est la leur. Et pour finir, ce sera, créer des sas d'expression. Alors, un exemple simple, c'est que l'exemple que je vous donnais tout au début des enfants qui ont dit, On ne souhaiterait avoir aucun autre parent que les parents qu'on a actuellement. On est très content du choix que Dieu a fait pour nous. Et qu'est-ce que ses parents font? Je crois qu'elle faisait ça, je crois, tous les trimestres, si je ne me trompe pas. Tous les trimestres, en fait, bon, on fait passer avec les enfants. Je crois qu'on peut le faire hein, dès qu'ils ont 5 ans. C'est quelque chose qu'on peut faire parce qu'à 5 ans, ils commencent à parler. Ils commencent à exprimer leur désaccord, qu'ils ne sont pas d'accord avec une décision qu'on a prise, etc., etc. Et donc, du coup, en fait, dès très jeune, hein, là, au moment où les enfants disent ça, ils avaient, je pense, 13 et 15 ans, quelque chose comme ça. Donc, ils étaient en pleine adolescence. Et en pleine adolescence, malgré le fait que leurs parents sont stricts, ils apprécient le travail que leurs parents font à leur côté, quoi. Et donc, du coup, il y avait une réunion familiale. Et dans la réunion familiale, les enfants doivent dire ce qu'ils reprochent aux parents. Ou ce pourquoi ils sont contents, mais c'était plutôt, en tout cas au début, c'était plutôt les reproches. Et donc, du coup, c'est le moment autorisé qu'ils ont pour dire, j'ai pas apprécié quand tu m'as puni comme ça. J'ai pas apprécié quand tu as interdit ça. J'ai pas apprécié quand tu m'as parlé comme ça, etc., etc. Et c'est pas évident de se prendre ces trucs-là dans la figure parce que bon, on leur a donné l'autorisation. Bon, on parle quand même avec respect, mais ils nous renvoient en fait comment ils ont vécu certaines situations familiales et ça permet de désamorcer des tensions familiales, de l'aigreur, de la rancœur et de l'amertume que l'ennemi pourrait utiliser par la suite. Par exemple, dans l'exemple dont j'ai parlé précédemment, Absalom, le fils de David, une des raisons qui a fait qu'Absalom a tué Amnon et ensuite a méprisé David au point de coucher avec ses femmes et de vouloir le tuer et prendre la royauté, c'est parce qu'il a vu que c'était un sentiment d'injustice en fait. Parce que son père n'a pas puni Amnon qui avait violé sa sœur. Et ce n'était pas juste. Donc, quand tous les trimestres, en fait, on a ce sas d'expression où l'enfant ou l'adolescent sait qu'il peut tout dire sans craindre d'être puni, ça leur permet aussi d'exprimer les sentiments d'injustice ou de rejet ou toute blessure que nous, en tant que parents, futurs parents, on aurait pu infliger à nos enfants. On n'est pas parfait, hein, comme David n'est pas parfait. Et ça peut nous permettre ainsi de nous excuser, ce qui permet que l'ennemi n'utilise pas cet épisode-là pour éloigner l'enfant de nous et du foyer familial. Et ça permet également pour nous, en fait, de découvrir le fonctionnement de nos enfants et comment ils évoluent. Et avec l'aide du Saint-Esprit, de vraiment pouvoir s'ajuster. Parce qu'il y a une des choses qui se fait, c'est que quand l'enfant grandit, ben, il est censé prendre son envol petit à petit. Mais c'est très important de garder le lien familial avec nous, les parents, parce qu'on est avant leur pasteur, on est les premiers parents spirituels de nos enfants et on est également leur référent. Et ils sont notre responsabilité devant Dieu. Donc, créer un sas d'expression permet de voir comment ils évoluent, permet de voir les changements qui s'opèrent en eux, permet de voir les influences auxquelles ils sont soumis, permet de demander pardon si c'est nécessaire de façon à apaiser et à éviter que l'amertume, la colère ne commence à germer dans l'enfant et n'explose un moment et qu'il soit incontrôlable et qu'on perde notre enfant. Et pour finir, créer le sens d'expression nous permet aussi de réaffirmer parfois certaines décisions qu'on a prises, certaines punitions qu'ils ont eues, et ça nous permet d'élaborer encore plus pour qu'ils comprennent pourquoi on a agi ainsi, sachant que, comme je l'ai dit, on a établi un cadre et une culture familiale avec des choses à faire, à ne pas faire, et des conséquences attachées au fait de désobéir au cadre et à la culture familiale. Donc normalement, même s'il peut se sentir trouver que c'est pas juste, c'est tout à fait entendable, mais si on lui rappelle le cadre et la culture familiale, il est normalement l'enfant devrait comprendre que ben, c'est lui qui a fauté et que c'est pas les parents et que du coup ce serait à lui de s'excuser. Donc c'est comme ça qu'on aide aussi nos enfants à grandir. Émotionnellement parlant et qu'on les préserve en fait d'aller à l'extérieur chercher la validation, chercher les conseils, chercher la prière dont ils ont besoin, mais qu'on crée une famille en fait où les liens sont très forts. Parce que au-delà des liens de sang, il y a des liens spirituels et émotionnels qui ont permis aux enfants en fait d'être sécures dans ce milieu-là qu'on a créé avec notre mari. Donc voilà, c'était réussir l'éducation de ses enfants. J'espère que ça t'a béni. Moi, c'est des choses que le Seigneur m'avait mises à cœur depuis longtemps, mais quand j'ai vu que plusieurs femmes en fait qui ont déjà des enfants l'applique et j'ai vu les résultats, je me suis dit que non, le Saint-Esprit m'avait vraiment parlé. Donc, tu vois, même dès maintenant, toi qui es célibataire, le Saint-Esprit peut déjà t'enseigner comment gérer ton foyer, comment prendre soin des enfants qu'il va vous donner avec ton époux. Et ce serait pas peu de choses de commencer à prier pour ça, de façon à ce que tes enfants soient entre de bonnes mains. Et que quand ils ne sont pas avec toi et qu'ils sont dans une école où on a des enfants qui à la maison, et c'est une bonne majorité, ils vivent des choses complètement difficiles, que vraiment ton enfant soit épargné. Hein, je me rappelle d'une petite qui a dit à sa mère, Maman, tu es dans un foyer chrétien, ils sont partis dans un voyage scolaire et elle a dit à la maman, Maman, en fait, dans le bus scolaire, en fait, il y avait des enfants qui regardaient des films porno. Ils avaient 9 ans. Des films porno sur leur téléphone. Mais ne dis rien à personne parce que sinon on va me juger à l'école. C'est ce qui se passe quand on envoie nos enfants en voyage scolaire. D'autres enfants les introduisent au film porno. Ou un autre jeune homme qui témoignait, qui a eu vraiment des difficultés. Avec l'homosexualité et comment c'est venu, ben en fait, il était pas pareil, voyage scolaire, et partageait sa chambre avec un autre garçon en fait, qui lui a dit, mais qu'est-ce qu'on fait ce soir? Et puis lui, il dit, ben rien, moi, j'ai rien prévu. Et l'autre lui dit, mais est-ce que tu crois pas qu'on pourrait se masturber? Et puis l'autre enfant qui vient d'un foyer chrétien dit, ben non, je sais pas ce que c'est. Et il dit, je vais te montrer. Et il s'est imposé sur le petit et il l'a masturbé quoi. Bon, c'est un peu bon, je suis infirmière de formation hein, donc c'est pas des choses qui me choquent comme terme. J'espère que toi non plus parce que c'est la réalité de ce qui se passe dans les voyages scolaires et dans les écoles pendant qu'on n'est pas là. Donc c'est l'importance, tu vois, c'est pour ça qu'il faut prier. Et donc du coup et ses parents prièrent. Et donc du coup en fait dès cet instant-là, au niveau de son identité, il savait plus s'il était attiré par les filles, par les garçons. Il y avait des filles qui étaient attirées par lui. Je veux dire qu'il était hétéro, mais en même temps, il y avait des garçons qui étaient attirés par lui. Il savait plus. Il savait plus. Il savait plus. Mais il savait qu'il aimait Dieu. Il avait déjà donné sa vie à Jésus à un très jeune âge. Et ça a bousillé son adolescence et sa jeune vie d'adulte, quoi. Aujourd'hui, il est marié. Je crois qu'il a 2 ou 3 enfants. Sa femme est au courant. Et vraiment, le Seigneur a restauré. Mais c'est pour dire que nos enfants ne sont pas à l'abri à l'extérieur. Maintenant, on peut pas être avec eux 24 heures sur 24. Particulièrement en tant que leaders chrétiennes, on a des entreprises, on a des projets que Dieu nous a mis à cœur. On travaille à des postes à responsabilité. Mais c'est important qu'on revienne à la base et qu'on mette en place ces 6 points dont j'ai parlé. On a parlé du culte familial, du cadre familial, ces 7 points, de la culture familiale, de la prière, du fait d'impliquer le Saint-Esprit dans la façon de gérer les enfants et de créer des sas d'expression pour désamorcer toute blessure émotionnelle qui pourrait par la suite être utilisée par l'ennemi pour emmener nos enfants dans des pratiques ou des comportements qui sont totalement à l'opposé de l'éducation qu'on leur a donnée. Amen. Donc, voilà. Est-ce qu'on se retrouve vendredi prochain? Eh bien, je vais t'envoyer un mail. Je vais mettre. Suis-moi sur les réseaux. Suis Leader Chrétienne sur Instagram, plus précisément. Parce que c'est très compliqué en ce moment. L'organisation de la conférence, c'est pas de la blague. C'est pas de la blague du tout. Et du coup, ça me laisse moins de temps parce que il faut être sur tous les fronts. Je ne devais pas être sur autant de fronts, mais je me retrouve sur pas mal de fronts. Donc, le temps que j'avais prévu d'enregistrer les podcasts, ben, c'est un peu misé comme une peau de chagrin. Ce qui explique le temps de latence entre chaque podcast. Mais on persévère. Je vais essayer en tout cas d'être là tous les 15 jours sûrs avec les différents thèmes qu'on a abordés. Mais soyons des mères et des futures mères au courant des dangers que représentent l'extérieur et les familles dysfonctionnelles. Et prions pour que le Seigneur nous aide, malgré nos responsabilités, à réussir l'éducation de nos enfants, mais également à être bien entourés, parce que pour certaines d'entre nous, on aura besoin d'aide et on a besoin d'être aidés par des personnes qui partagent nos valeurs, qui ne seront pas une menace à retardement pour ses enfants ou pour notre foyer ou pour notre couple. Amen. On se voit, allez, dans 15 jours pour le prochain podcast. On va parler d'une entreprise divinement inspirée cette fois-ci. À très bientôt et sois béni. Bye.